le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'accord trouvé hier soir par le gouvernement italien sur ses objectifs budgétaires intégrant un déficit beaucoup plus important que prévu place désormais l'Italie en porte-à-faux avec la Commission européenne. Nous irons donc dès le début de ce journal à Rome mais aussi à Bruxelles.
Et puis la dette publique de la France, Thomas, elle a atteint 99% du PIB à la fin du deuxième trimestre.
Et elle reste donc sous le seuil symbolique des 100%, analyse à suivre avec Jean-Marc Chardon.
Le président turc et la chancelière allemande se retrouvent aujourd'hui avec pour objectif de se réconcilier.
Oui, une mission compliquée à la fois par les saillies passées de Recep Tayyip Erdogan, mais aussi par les difficultés politiques d'Angela Merkel, nous dira notre correspondant Ludovic Piétenu.
Plus que jamais, l'Assemblée nationale générale des Nations Unies ressemble à un grand théâtre.
Oui, en particulier avec la démonstration hier de Benjamin Netanyahou accusant l'Iran de dissimuler des équipements nucléaires. Coup d'éclat et effet de mise en scène, le récit à suivre de Claude Guibal.
Dans votre édition également, Thomas Cluzel, en France, l'examen du projet de loi Pacte se poursuit à l'Assemblée.
Et le ministre de l'Économie veut notamment desserrer les freins à l'embauche. Et puis avec Christine Moncla, nous tâcherons de comprendre pourquoi les villes de Sevran et d'Aulnay-sous-Bois ont décidé de supprimer les distributeurs de seringues stériles pour les toxicomanes, au grand dam des associations.
Enfin, invité de la page Europe aujourd'hui.
Claude Rollin, député européen, membre du PPE et vice-président de la commission emploi et affaires sociales au Parlement. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Environnement, écologie, comment agir pour le climat sans envisager un changement drastique de modèle économique, voire aussi de modèle de société. Faut-il remettre en cause notre démocratie dans ses formes actuelles. Nous en parlerons avec notre invité, l'astrophysicien Nicolas Barraud, et avec Nicolas Doménac, le directeur du nouveau magazine littéraire, qui sera à mes côtés à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Comment tenir ces coûteuses promesses électorales tout en contenant les déficits publics? Face à cette question sur laquelle nombre de pays européens s'arrachent les cheveux, la coalition populiste d'extrême droite au pouvoir en Italie n'entendait pas elle se faire trop de nœuds au cerveau et a donc décidé de manipuler tout simplement les termes de l'énoncé. Comment financer ces promesses? Réponse, grâce au déficit. Et c'est ainsi qu'en dépit des injonctions de Bruxelles qui demandait à Rome de réduire sa dette et au risque de provoquer une flambée des marchés financiers, le gouvernement italien a décidé hier de ficeler son budget pour 2019 en portant à 2,4% du PIB son objectif de déficit. Alors bien entendu, cet accord a notamment provoqué l'allégresse du mouvement 5 étoiles qui, dépassé par la Ligue d'extrême droite dans les sondages, était particulièrement désireux de présenter ce budget comme une victoire politique, l'occasion aussi et surtout d'appliquer sa promesse de mettre en place un fameux revenu de citoyenneté pour les plus démunis. C'est une correspondance à Rome d'Antonino Gallofaro.
L'inquiétude des marchés a pris la place ce matin des célébrations cette nuit du mouvement 5 étoiles. Les militants et parlementaires du parti anti-système au pouvoir s'étaient retrouvés hier soir pour célébrer le financement de leurs promesses, notamment celle d'un revenu citoyen universel pour les plus démunis. Leur leader Luigi Di Maio avait promis à ses électeurs de se réveiller dans une Italie nouvelle. Mais l'Italie ce matin est celle secouée par la dure réaction des marchés. La bourse de Milan a perdu 2% en ouverture et les commentateurs et la presse s'inquiètent des probables tensions avec Bruxelles, où la Commission européenne devra se prononcer le mois prochain sur la première manœuvre économique du gouvernement des 5 étoiles et de la Ligue. Il s'agit ici d'une victoire politique des deux partis anti-système. Pour les premiers, d'extrême droite pour la seconde, leur ligne a prévalu sur celle du ministre de l'économie, Giovanni Tria, un technicien poussé à ce poste par le président de la République, Sergio Mattarella. Le ministre poussé pour un déficit à 1,6% du PIB contre les 2,4% désormais confirmés par l'exécutif. Le quotidien El Corriere della Sera ce matin craint que cette bataille de chiffres, cette différence de 0,8%, soit quelques 8 milliards d'euros, ne soit payée in fine par les entreprises et surtout par les Italiens, dont près de 2/3 se disent pourtant désormais électeurs de l'un ou de l'autre parti au pouvoir.
Alors avec un tel budget, la dette italienne qui représente déjà aujourd'hui plus de 130% du PIB, soit la plus lourde d'Europe après celle de la Grèce, rapportée au poids économique du pays, ne devrait pas diminuer, ce qui pose plusieurs questions. D'une part, la vulnérabilité de l'Italie à toute évolution du cycle économique. D'autre part, la perte de crédibilité du ministre italien de l'économie. Et enfin, le risque donc pour Rome de se mettre à dos l'Union européenne. Car même si l'accord trouvé hier soir reste dans la limite du plafond de 3% fixé par les règles européennes, le gouvernement italien précédent s'était lui engagé sur une réduction significative de ce déficit. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Les réactions ce matin n'ont pas tardé, à commencer par le commissaire européen Pierre Moscovici qui juge ce budget hors des clous.
Et même explosif, car Pierre Moscovici a choisi ce mot pour qualifier la dette italienne, car, dit-on ici dans les couloirs de la Commission européenne, s'il est vrai qu'un budget à 2,4% du PIB, c'est nettement en dessous du plafond autorisé des 3%, En revanche, on peut s'inquiéter de ce que les 20 milliards d'euros de dépenses publiques, que représente la somme des promesses électorales des deux partis de la coalition, ralentissent brutalement la réduction de la dette cumulée, qui dépasse déjà, vous le disiez, les 131% du PIB, réduction qui constitue pour l'Union européenne un objectif prioritaire. Malgré cela, il ne devrait donc pas y avoir cette fois-ci de collision frontale entre Rome et la Commission européenne, qui attend que le budget détaillé lui soit soumis d'ici au 15 octobre, avant sa présentation au Parlement italien 5 jours plus tard. On remarque cependant que le projet de revenu universel inconditionnel, fonds de commerce électoral du mouvement 5 étoiles et qui apparaît à hauteur de 10 milliards dans le budget italien, n'est ni universel ni inconditionnel et ne se substitue pas aux autres formes d'aide sociale individuelle. Enfin, on redoute, vous le disiez, que le ministre de l'économie, Giovanni Tria, qui avait en vain plaidé pour une hausse bien plus limitée des dépenses, sorte durablement affaibli de cet épisode et que cela affecte négativement la confiance des marchés, ce que l'on pouvait déjà constater ce matin.
Merci Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Alors dans sa réaction ce matin au budget italien, le commissaire européen Pierre Moscovici a rejeté en revanche toute comparaison entre l'Italie et la France. La France dont le projet de budget pour 2019 prévoit un déficit pourtant supérieur à 2,8% du PIB, c'est-à-dire en hausse par rapport à 2,6% attendu cette année. Jean-Marc Chardon, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pierre Moscovici a sans doute raison lorsqu'il explique qu'on ne peut pas comparer la situation de l'Italie avec celle de la France. Il n'en demeure pas moins que les rapprochements sont inévitables entre l'Italie et la France, et peut-être même davantage encore entre la France et l'Allemagne. Pourquoi ? Tout simplement parce que tous ces pays sont soumis aux mêmes contraintes.
Et oui, les contraintes, les règles, des règles édictées sur la base de critères réclamés auprès des États, celle des 3% de déficit public à ne pas dépasser, celle de ramener la dette sous la barre des 60%. Le gros problème dans cette affaire, eh bien, c'est que ces critères maastrichtiens ont été énoncés avant la crise financière de 2008, avant que cette crise fasse exploser déficit et dette, et que depuis, eh bien, on voit que les États réussissent péniblement à réduire l'un et l'autre déficit et endettement, à l'exception de l'Allemagne. Or, la situation de la France, elle est particulière, intermédiaire entre l'Allemagne et l'Italie. Alors, il faudra qu'elle se rapproche de l'Allemagne dont la dette recule année après année. Elle devrait approcher d'ailleurs les 60% d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui l'en empêche ? Après tout, avant la crise, la France était au coude à coude avec l'Allemagne. Sauf qu'elle ne parvient pas à réduire suffisamment son train de dépenses publiques, notamment. Alors ça, c'est l'une des explications. Outre que sa croissance est plus faible et que son commerce extérieur, on le sait, reste déficitaire. Autant de fragilités est bien réelles. Sans compter qu'il n'y a pas que la dette publique qui pose question. La France est aussi abonnée à l'endettement privé par les entreprises à 10 points au-dessus de la moyenne de la zone euro, ce qui est beaucoup. Et puis par les ménages avec l'abondance des crédits immobiliers à bateau. Du coup, la dette privée, elle continue elle aussi d'augmenter. Et c'est cette accumulation, dette publique, dette privée, qui met la France dans une position pour le moins confortable, en tout cas dans la zone euro.
Merci Jean-Marc Chardon. Si le populisme est généralement entendu comme une source de perversion de la démocratie, comment doit-on comprendre le pragmatisme en politique ? À ce titre, la visite d'État controversée du président turc en Allemagne semble pouvoir nous offrir quelques éléments de réponse. Recep Tayyip Erdogan et Angela Merkel se retrouvent aujourd'hui pour tenter de tourner la page de 2 années de tensions, un exercice complexe et tout particulièrement pour la chancelière. Pourquoi ? D'une part, parce qu'elle n'a pas franchement digéré les attaques incessantes de son homologue, notamment les accusations de nazisme lancées l'an dernier contre son gouvernement, et d'autre part, parce qu'Angela Merkel ressort affaiblie par une année de turbulence politique. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Berlin. Toute cette journée, Angela Merkel va donc devoir jouer les équilibristes en gardant une certaine distance avec son invité, sans pour autant l'ignorer, et surtout en se gardant bien de le braquer, ce partenaire incontournable, notamment pour empêcher tout nouvel afflux de réfugiés.
Oui, il y a d'abord la classe politique allemande qui goûte peu l'influence qu'exerce Erdogan dans le pays. Comme il l'a déjà fait dans le passé, des discours enflammés devant la communauté turque allemande. Ce ne devrait pas être le cas demain, Thomas, quand il inaugurera la plus grande mosquée du pays à Cologne. Mais le fait même qu'il s'y rende et le fait que ce lieu de culte soit directement connecté aux autorités d'Ankara ne passe pas très bien chez les élus, toutes couleurs politiques confondues. Plus généralement, l'opinion publique allemande est très remontée, elle a très mal mal vécu les tensions avec la Turquie depuis 2 ans. Elle a très peu apprécié les insultes d'Erdogan, qui est allé jusqu'à parler de pratiques nazies du gouvernement allemand. La presse, elle aussi, est très remontée contre le leader turc. 5 Allemands sont toujours en prison en Turquie. Plusieurs citoyens ont été arrêtés de façon arbitraire ces 2 dernières années, dont le journaliste Deniz Yücel du quotidien conservateur Die Welt, le Figaro à l'allemande, un journal proche du parti de Merkel. Pression donc absolue de toutes parts sur la chancelière. Pression aussi de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté de la presse qui vont manifester tout à l'heure sur la Potsdamer Platz de Berlin. Angela Merkel a promis de parler droits de l'homme à son interlocuteur, mais vous connaissez Erdogan, il est habitué aux provocations et juste avant de se rendre à Berlin, il a fait parvenir, on l'a appris ce matin, aux autorités allemandes une liste de 69 personnes dont il demande l'extradition, parmi elles l'emblématique journaliste turc Can Dündar, le directeur du quotidien Cumhuriyet, qui a trouvé asile à Berlin depuis 2 ans.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Quand la tribune des Nations Unies prend des allures de tribunal, hier le Premier ministre israélien a accusé l'Iran, carte à l'appui, d'abriter un site de stockage atomique secret à Téhéran. Après une présentation au ton rappelant d'autres révélations, notamment au printemps dernier, sur les plans secrets du gouvernement iranien, Benjamin Netanyahou a mis au défi le directeur de l'AIEA d'envoyer immédiatement sur place des inspecteurs. L'occasion également pour l'État hébreu de réaffirmer que l'accord de 2015 que les Européens, les Russes et les Chinois continuent à défendre malgré le retrait des Américains reposait sur un mensonge. Les précisions de Claude Guibal.
Dans sa main, une photo aérienne collée sur une pancarte à la tribune des Nations Unies. Benjamin Netanyahou s'adresse à l'Assemblée générale.
Aujourd'hui, je vais vous montrer que l'Iran a un autre site à
Téhéran.
Un site secret de stockage atomique où sont entreposés des stocks énormes de matériel et d'équipement liés au programme nucléaire secret que poursuit l'Iran.
Pour Benjamin Netanyahou, ce site dans la capitale iranienne pourrait renfermer jusqu'à 300 tonnes de matériaux liés au nucléaire. Des matériaux qui seraient selon lui en train d'être évacués et dispersés par les Iraniens. Et d'appeler le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à procéder à des inspections immédiates. Selon lui, l'existence de ce site prouve que l'accord passé en 2015 avec l'Iran est, dit-il, un mensonge.
L'Iran n'a pas abandonné son objectif de développer des armes nucléaires. En fait, il compte réutiliser ce site dans quelques années pour y assembler une bombe atomique. Mais soyez rassurés, cela n'arrivera pas, car ce que l'Iran cache, Israël le trouvera.
Pour Benjamin Netanyahou, qui a félicité les États-Unis de s'être retirés de cet accord, ce texte est une menace pour l'existence même d'Israël et de conclure, en redoutable tacticien, que l'accord nucléaire iranien avait eu quand même pour effet positif de rapprocher Israël et de nombreux pays arabes, des pays arabes sunnites, évidemment inquiets des ambitions et de la puissance de leurs voisins chiites.
Les services secrets britanniques ont identifié un 3e agent du renseignement militaire russe qui serait impliqué dans la tentative d'assassinat de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille. C'est ce que rapporte ce matin la presse outre-Manche. De son côté, Moscou continue de rejeter toute implication dans cette tentative d'assassinat. Un attentat terroriste majeur a été déjoué aux Pays-Bas, c'est ce qu'a annoncé hier le parquet néerlandais. 7 hommes âgés de 21 à 34 ans soupçonnés de vouloir passer à l'acte ont été arrêtés. L'audience était retransmise en direct sur des millions d'écrans. La voix tremblante Christine Blasey-Ford, 51 ans, chercheuse en psychologie, a accusé sous serment hier le juge Kavanaugh d'avoir tenté de la violer lors d'une soirée entre lycéens. En revanche, le président Donald Trump n'a semble-t-il pas été convaincu par son témoignage puisqu'il a choisi de maintenir sa confiance à son candidat à la Cour suprême. Après avoir voté hier soir la réforme des chambres de commerce et d'industrie, les députés poursuivent aujourd'hui l'examen du projet de loi Pacte à l'Assemblée, un texte aux mesures, disons, disparates, visant essentiellement à renforcer la croissance via des simplifications pour les entreprises. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Il est notamment question de supprimer certains seuils sociaux. De quoi s'agit-il?
Mais Bruno Le Maire l'a redit devant l'Assemblée nationale. Pour lui, les PME sont, je cite, « surchargées de règles, d'obligations administratives excessives et de contraintes absurdes ». Et c'est pour cela qu'il souhaite réformer les seuils sociaux, c'est-à-dire le nombre d'employés à partir desquels les entreprises ont des obligations fiscales et légales. Une complexité indéfendable, estime Bruno Le Maire, qui a recensé près de 200 obligations. Sur la vingtaine de seuils actuels, la loi Pacte n'en conserve que 3, 11, 50 et 250 salariés. Le seuil de 20 salariés sera ainsi supprimé. Les entreprises qui passent de 19 à 20 seront par exemple dispensées des cotisations pour l'aide au logement dont elles doivent aujourd'hui s'acquitter. Seules les obligations liées à l'emploi des personnes handicapées sont conservées. Moins de seuils donc, mais aussi des règles plus souples quand une entreprise en franchit un. Elle bénéficiera d'un délai de 5 ans avant que ses nouvelles obligations ne deviennent effectives. Conséquence à court terme, cela devrait geler un certain nombre de cotisations dont s'acquittent les entreprises, comme le versement transport dû par une entreprise qui passe la barre des 10 salariés. Pour les collectivités locales qui financent les transports publics grâce à cette taxe, cela représentera plusieurs millions d'euros de recettes fiscales en moins. Cet article de la loi Pacte, adopté hier, illustre bien la philosophie de la loi, mais aussi les débats qu'elle suscite. La réforme des seuils est une demande ancienne du patronat. Il estime que ces obligations sont un frein à l'embauche. Hier, à l'Assemblée, certains à droite ont même déploré que la loi n'aille pas assez loin et demandé en vain que soit relevé le seuil des 50 salariés, tandis qu'à gauche, les députés dénonçaient une mesure antisociale où élever les seuils revient à baisser les droits des salariés. Les débats ont repris ce matin autour d'une série d'autres mesures dites de simplification.
Merci Catherine Pétillon. Direction à présent la Seine-Saint-Denis. Là-bas, les villes de Sevran et d'Aulnay-sous-Bois n'ont plus de distributeurs de seringues stériles pour les toxicomanes. Les deux appareils ont été retirés à la fin du mois d'août en réaction à l'abandon de plus en plus massif de seringues usagées sur la voie publique. Christine Monclat, bonjour.
Bonjour Thomas.
À présent, plusieurs associations dénoncent une atteinte à la protection sanitaire des usagers de drogue, mais comme souvent, Christine, lorsqu'on parle de toxicomanie, la situation est loin d'être aussi simple, voire simpliste.
Oui, car la ville de Sevran est bel et bien débordée par ces seringues usagées. Malgré des maraudes associatives fréquentes, les services techniques en ramassent encore plus de 3000 par an dans la rue, les parkings, mais aussi dans l'enceinte de l'hôpital et jusque dans les cours d'école. Or, cette commune de gauche tient à ne surtout pas stigmatiser les toxicomanes. La mairie réclame même plus de distributeurs sur sa commune et aux alentours. Et la question d'ouvrir une salle d'injection pour les consommateurs n'est même pas tabou. Sauf que fin août, la préfecture a décidé d'un retrait provisoire mais total des deux Distribox pour raisons de sécurité publique. L'Agence régionale de santé applique la décision mais alerte sur le danger sanitaire que cela représente. Sachant que les distributeurs de Sevran et d'Aulnay sont parmi les plus fréquentés d'Île-de-France, plusieurs associations dont Médecins du Monde, AIDS ou ACT UP se sont littéralement étranglées en apprenant la nouvelle, car l'accès à ces kits stériles est la toute première action de réduction des risques menée dans les années 80. Il s'agissait à l'époque, comme aujourd'hui, de réduire le nombre d'infections à l'hépatite C et au VIH liées à l'échange des seringues. Alors pendant ce moratoire qui doit durer 3 mois, la préfecture et l'agence de santé vont évaluer les effets sociaux, sanitaires et sécuritaires de l'absence de Distribox. Mais il n'est pas envisagé à ce stade d'ouvrir plus de centres d'accueil spécifiques, il n'y en a que 3 dans tout le département, ni d'installer d'autres distributeurs. La situation a donc toutes les chances de rester critique pour chacun des acteurs, la ville, l'État, les associations et bien sûr en premier lieu les consommateurs eux-mêmes.
Merci Christine Monclat. Comme chaque vendredi, à présent nous ouvrons notre page Europe. Invité aujourd'hui Claude Rollin, député européen du parti belge Centre démocrate humaniste, membre de la majorité Parti populaire européen et vice-président de la commission emploi et affaires sociales au Parlement. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et avec moi en studio pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Alors un appel à la grève des personnels de la compagnie à bas coût Ryanair, qui réclame de meilleures conditions de travail, a été lancé aujourd'hui dans plusieurs pays européens, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Une grève pan-européenne en somme. C'est assez rare pour être signalé. Les syndicats font donc front commun. Est-ce que c'est là finalement la seule solution aujourd'hui pour obtenir gain de cause?
Mais il est clair qu'on est en face de quelque chose qui est historique. Historique parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un mouvement de grève pan-européen qui se décide, et alors qui est beaucoup plus important. Les informations que je reçois pour le moment montrent que ça dépasse largement les espérances des organisations syndicales et pas celles de la direction de la compagnie. Maintenant, je pense que c'est le seul moyen. Pourquoi c'est le seul moyen? Depuis de nombreuses années, cette compagnie joue des différences de législation entre les États, se basent sur des contrats qui sont des contrats irlandais, de façon à éviter les éléments de sécurité sociale, de droit du travail, la façon de payer les gens. Et ce qu'il faut savoir en plus, ce qui me paraît totalement scandaleux, c'est qu'une partie non négligeable, c'est-à-dire près de 50% du personnel de cabine, ne sont même pas sous des contrats irlandais de la compagnie d'aviation, mais ce sont des contrats d'intérim dépendant de sociétés d'intérim de statut irlandais. Et que si je regarde les pilotes d'avion, eh bien une partie non négligeable de ces pilotes sont des indépendants. C'est ce qu'on appelle en termes juridiques des faux indépendants. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas un statut de salarié pour la compagnie, qui sont indépendants, mais qui n'ont qu'un seul employeur, qui est la compagnie Ryanair.
Une question d'Annabelle Grolier.
Alors Claude Rollin, je vais citer Marianne Thyssen, la commissaire des affaires sociales. Elle disait hier, en s'adressant au patron de Ryanair, Michael O'Leary, « Le respect du droit communautaire n'est pas quelque chose sur lequel les travailleurs devraient avoir à négocier, ni quelque chose qui peut être différent d'un pays à l'autre. » Claude Rollin, Ryanair respecte-t-il tout simplement le droit européen ?
Non. Non, il ne le respecte pas. Parce que la règle de base du droit européen, c'est que les contrats et les conditions de travail des gens doivent dépendre de l'endroit où ils sont basés. Et donc, il ne les respecte pas. Et je trouve que la Commission, avec la commissaire Marianne Thyssen, a tout à fait raison d'avoir eu les propos qu'elle a eus en la matière. Maintenant, ce que je voudrais, moi, et je le dis comme parlementaire, c'est que au niveau européen, on aille plus loin. C'est-à-dire, il y a des affaires qui sont en cours, mais qu'il y ait des sanctions par rapport à cette compagnie qui ne respecte pas le droit, mais peut-être plus grave, qui met en cause le fonctionnement même de l'Union européenne. Parce que ce type de pratiques détruisent la possibilité de construction réelle de l'Union européenne.
Tout à fait, parce que ce n'est même plus du dumping social, on est carrément dans la fraude.
On est dans la fraude, on est dans le non-respect, on est en plus avec des pratiques patronales qui sont dignes d'un autre siècle. Par exemple, dernièrement, mais il y a moins d'un mois, un représentant syndical qui n'avait pas encore la protection, parce que Ryanair ne l'accepte pas, a été licencié. Aujourd'hui, cette compagnie fait pression en permanence pour les travailleurs pour qu'ils se taisent. On est là devant réellement quelque chose de scandaleux, qui en plus et de la concurrence déloyale par rapport aux autres compagnies qui respectent les règles.
Oui, parce que Ryanair est la seule compagnie aérienne européenne à utiliser ce genre de méthode. Même son concurrent direct EasyJet emploie ses pilotes selon le droit local de chaque pays. Mais le Parlement européen, Monsieur Rollin, n'a-t-il pas les moyens de contraindre Ryanair ?
Le Parlement en tant que tel, non. Mais le Parlement européen doit continuer à avancer. Et nous l'avons d'ailleurs à la Commission Emploi et Affaires Sociales, une série de dossiers sur cette fin de législature qui sont importants. On a réglé, en tous les cas, on a avancé dans le règlement de tous les problèmes de mobilité au travers de la directive détachement. On discute aujourd'hui de ce qu'on appelle le paquet transport et on doit aller plus loin dans les outils nécessaires pour sanctionner des acteurs qui se comportent, je veux dire franchement, comme des brigands. Et donc nous avons besoin le plus rapidement possible d'avoir une structure de type d'inspection sociale européenne avec des capacités de sanction.
Les inspecteurs du travail européen, vous voulez dire, parce que quel signe on peut envoyer aujourd'hui aux salariés en Europe pour éviter ce genre de situation ? Quel signal positif ?
Je pense qu'il y a il y a plusieurs signaux qui sont envoyés aujourd'hui. Le premier signal, c'est la capacité des organisations syndicales, alors que c'est très difficile, qu'il y a des pressions. J'entendais ce matin, les travailleurs en grève à Charleroi ont refusé de s'exprimer devant les radios et les télévisions, tout simplement parce qu'ils avaient peur d'être licenciés à cause de l'action syndicale. Et donc cette action syndicale est vraiment une action importante et positive dans le cadre européen. La deuxième chose, c'est qu'au niveau du Parlement, nous devons pousser la Commission à aller plus loin, plus fort, en matière d'harmonisation des réglementations et de capacité de sanctionner des entreprises comme celle-là. Il faut aussi plus globalement, parce que la question des faux indépendants ne se pose pas que pour les pilotes de cette compagnie, il est beaucoup plus large, donc on doit régler la définition de ce qu'est un travailleur et de l'application de la loi sur les gens qui sont dans des formes de contrats de travail.
Dernière question, Claude Rollin, vous avez été à la tête du plus important syndicat belge, la Confédération des syndicats chrétiens. N'y a-t-il pas une part de responsabilité importante tout de même des gouvernements nationaux qui ont réformé leur code du travail, permettant ce genre de pratiques assez agressives?
Vous avez tout à fait raison, il y a une part de responsabilité. Alors, elle est différente d'un État à l'autre, bien entendu, bien entendu, mais quand on rend plus flexible les législations, quand on accepte plus de diktats d'entreprises, effectivement, ça fragilise le statut des employeurs. Maintenant, il y a un rôle aussi important des autorités nationales pour sanctionner de tel type de pratiques. Ça fait partie de leur rôle et c'est important que les États prennent, en tous les cas, plus leurs responsabilités en la matière. Il y a vraiment un enjeu de fond sur l'avenir de l'Union européenne. Parce que si on continue à accepter ce type de dérive, eh bien, ce sont les travailleurs de différents États qu'on l'on met en concurrence l'un contre l'autre. Il ne faudra pas s'étonner si, à terme, ils ne veulent plus de la construction de l'Union européenne. Donc, pour moi, il y a là vraiment un impératif vital pour l'avenir de l'Union européenne.
Merci. Claude Rollin, député européen du Parti Belge Centre Démocrate Humaniste et vice-président de la Commission Emploi et Affaires Sociales au Parlement, d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Annabelle Grelier. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui, à l'exception de quelques nuages qui s'attarderont sur les rivages de l'Aquitaine et dans l'Est. Le soleil dominera partout. Les températures, elles seront comprises cet après-midi entre 17 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer complètement, nous allons prendre le temps, Olivia, de tourner une autre page avec Frédéric Barrère, directeur de la rédaction, mais aussi tous les membres de la rédaction qui sont rentrés dans ce studio pour saluer un départ.
Et oui, parce que c'est un moment particulier. Aujourd'hui, c'est un événement pour la rédaction France Culture. C'est un changement pour les auditeurs. La rédaction va perdre, se séparer, je ne sais pas trop comment on dit. On n'aura plus un excellent journaliste tous les jours à nos côtés, pour ce qui me concerne. Un ami, Jean-Marc Chardon, chef du service économique et social, une des voix de l'écho sur la chaîne, sur France Culture, a décidé de partir à la retraite. C'est des choses qui arrivent, tu sais ce que j'en pense. En tout cas, Jean-Marc, Sandrine Trainer, directrice de France Culture, se joint à moi et avec toute la rédaction pour te souhaiter 1000 projets, 1000 passions et 1000 bonheurs dans ta nouvelle vie. Jean-Marc, un grand bravo pour ta carrière. 1000 merci. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de monde en régie, en studio. Ce n'est pas parce que Romain Duris était avec vous il y a encore quelques minutes, Olivia. Non.
C'était pour Jean-Marc Chardon. Mais oui.
Oui, c'est pour dire très sincèrement, avec regret, malgré tout, mais très amicalement. Eh ben, au revoir. Et je sais qu'on se reverra bientôt. Je te laisse, Jean-Marc, le dernier mot.
Bien, merci, Frédéric. De ces mots, effectivement, d'encouragement. C'est très sensible, cette intervention. Moi, je dirais merci, effectivement, à toi et à vous tous, à cette rédaction qui n'est pas uniforme, qui est une rédaction, je crois, assez intéressante, qui a un esprit d'exigence dans lequel moi, je me reconnais. Et puis, je crois aussi un certain souci d'objectivité qu'il importe, effectivement, aujourd'hui, de cultiver le plus possible. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup d'intérêt, d'empathie, et de plaisir finalement avec cette équipe, et je salue évidemment plus particulièrement l'équipe du service économique qui a vu non pas le jour mais qui s'est créé et qui s'est renforcé à travers un pôle avec Marie Viennot qui travaille notamment sur les questions d'économie, finance internationale, sa bulle économique elle fait autorité, Annabelle Grelier on vient de l'entendre avec l'approche sociale et européenne qu'elle cultive à dessein, Hakim Kasmi très branché sur les entreprises et puis très lié aussi à l'éducation nationale et qu'il fait avec ardeur. Je n'oublie pas non plus Anne Orchois, qui, elle, travaille sur un périmètre économique, industriel et agricole. Elle le fait avec détermination, avec précision. Et enfin, Catherine Pétillon, qui ajoute, elle, la dimension développement numérique, qui nous a rejoint récemment et qui s'investit donc dans le champ éco. Et je crois que le champ économique, eh bien, il nous relie tous. Et c'est effectivement, je dirais, l'essentiel de ce que je voudrais dire, c'est que, je pars peut-être, mais je ne pars pas complètement, parce que l'économie, quelque part, nous relie toujours. Et c'est bien le message que je voudrais laisser à mon départ. Merci.
Merci Jean-Marc.
La prochaine édition sur France Culture, donc ce sera à 18h avec Benoît Bouscarel.